Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans Lectures en liberté, nous allons découvrir ce soir un roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. C'était une drôle de journée, une de celles qui vous font quitter l'endroit où vous étiez assis depuis toujours sans vous demander votre avis. Si vous aviez pris le temps d'attraper une carte, puis de tracer une ligne droite entre Alès et Mende, vous seriez à coup sûr passé par ce coin paumé des Cévennes. Un lieu-dit appelé les Doges, avec deux fermes éloignées de quelques centaines de mètres, de grands espaces, des montagnes, des forêts, quelques prairies, de la neige une partie de l'année et de la roche pour poser le tout. Il y avait aussi des couleurs qui disaient les saisons, des animaux et puis des humains qui tour à tour espéraient et désespéraient comme des enfants battant le fer de leurs rêves, avec la même révolte enchâssée dans le cœur, les mêmes luttes à mener qui font les victoires éphémères et les défaites éternelles. Le hameau le plus proche s'appelait Grisac. Situé sur la commune du pont de Montvert, une route les reliait et devait bien mener quelque part si on prenait le temps de s'y attarder. Gus vivait ici, depuis plus de 50 hivers. C'était en décembre que ce pays l'avait pris et que sa mère l'avait craché sur des draps durs et épais comme des planches de châtaignier, sans qu'il se sente dans l'obligation de crier, comme pour marquer son empreinte désastreuse dans un corps ancestral, une manière de se cogner à la solitude déjà, dans ce moment qui le faisait devenir quelqu'un par la simple entrée d'une coulée d'air dans sa bouche tordue. Des gens diraient plus tard qu'on n'aurait pas dû le secouer comme on l'avait fait pour lui extorquer le fameux cri et que si, dans le futur, il s'était mis à parler plus volontiers aux animaux qu'aux hommes, c'était un peu à cause de ce retard à l'allumage. Mais qui peut dire ce qu'il serait advenu si tout s'était déroulé normalement? Et qui aurait pu soutenir que, justement, la volonté du Tout-Puissant n'était pas de changer la donne pour Gus et que cette singularité n'augurait pas un destin supérieur. Ce qui était certain, c'était que même les âmes les plus charitables ne se gênaient pas pour montrer du doigt ce poisson-là qui nageait à contre-courant depuis sa naissance. La ferme de Gus était pinquée dans la partie la plus haute des Doges. À une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau du pont de Montvert, elle était constituée de vieux bâtiments, de terres cultivées, de taillis acoquinés en forêt de châtaigniers, des pins, des chênes, des hêtres et des mélèzes, pour l'essentiel. Le tout s'étendait sur 24 hectares. Pour être précis, il faudrait dire qu'entre les Doges et le village, les kilomètres ne duraient pas pareil, selon qu'on était en bonne ou en mauvaise saison. Les distances dans ce coin-là, c'est du temps, pas des mètres. Et Gus n'était pas un oiseau. Des légendes couraient depuis toujours sur les Doges et sa forêt bénie. Il se disait que le nom qu'on lui avait donné était l'exact contrepoint de ce qui s'y était passé, si tant est qu'on puisse imaginer qu'un lieu plutôt qu'un autre puisse attirer le malheur. Depuis, on avait oublié les légendes et conservé les noms. D'autres chats à fouetter. Que Gus aimait ce pays serait beaucoup dire, mais comme il n'avait rien connu d'autre, il s'était fait à l'idée d'y finir ses jours. Pas malheureux, pas vraiment heureux non plus. Sa place dans le vaste ordonnancement de l'univers, étant donné qu'il était incapable d'en imaginer un autre. À la réflexion, il n'aurait sans doute pas parié que beaucoup d'hommes puissent en dire autant. Et ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir une chaise à soie où poser ses fesses. Il s'était toujours satisfait de ce qu'il possédait, pas par choix ni par conviction, mais ce qu'on lui avait appris, c'était justement que rien ne devait changer, que toutes les créations avaient été réfléchies par une puissance qui dépassait les hommes en tout, ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Les envies de Gus étaient donc aussi simples que de boire quelques verres de vin quand il en ressentait le besoin, et de s'occuper des bêtes qu'il élevait avec passion. Tout ce qu'il avait jamais su faire, ce qu'on attendait de lui. C'était sa grand-mère paternelle qui avait appris à Gus tout ce qu'il savait de cette nature exigeante, ce qu'elle pouvait donner, à quel moment, et aussi ce qu'elle pouvait prendre. La grand-mère lui avait toujours dit que le bonheur était comme la promesse de l'aube. Si l'on s'en tient à la promesse, sans s'obstiner à vouloir deviner ce qu'on aurait envie qu'elle révèle à l'avance. C'était le genre de propos alambiqué dont elle était coutumière et qui sonnait étrangement dans sa bouche comme des mises en garde, l'air de rien. Gus la soupçonnait parfois d'être seulement garante de la question posée et sûrement pas d'une réponse qu'elle n'avait manifestement pas dans sa manche. Le grand-père Gus ne l'avait pas connu. Il paraissait que ça avait été quelqu'un en son temps, pas facile à manœuvrer, capable de se bagarrer pour asseoir son point de vue et accessoirement pour faire sortir la rage qui se trouvait au fond de lui. À en croire la rumeur, personne n'avait été capable de lui tenir tête. En quelque sorte, il n'avait pas connu la défaite. Et c'était justement ce qui avait causé sa perte, le jour où il avait tourné le dos à ce taureau et qu'il s'était fait broyer la cage thoracique entre le mur de la grange et le crâne du bovin. La bête n'en était pas restée là, elle s'était déchaînée à coups de corne sur cet homme qui l'avait souvent battu pour qu'il obéisse jusqu'au moment précis où le grand-père avait baissé sa garde, où tout avait basculé. Pourtant, chaque paysan sait qu'on ne doit jamais faire confiance à un animal aussi puissant qu'un taureau. On disait que le grand-père n'avait pas saigné, que la bouillie était restée bien en dedans de lui, à part un petit filet de sang qui avait fini par sortir du coin de sa bouche, mais il ne respirait déjà plus. Le père de Gus était adolescent au moment du drame. Il avait alors pris la ferme en main avec les mêmes arguments que son père, sauf qu'il était loin d'être aussi costaud physiquement et dans sa tête. La grand-mère avait obéi, vu qu'elle n'avait jamais été du genre à s'imposer en quoi que ce soit. S'il y a une chose à rajouter, c'était le penchant prononcé du père de Gus pour l'alcool. Une gnôle distillée dans la vallée par deux frères jumeaux surnommés les Mickey à cause de leurs oreilles démesurées. Leur breuvage ressemblait plus à de l'urine de bœuf fermentée qu'à de l'eau de vie. Et il faut croire que tant qu'on n'a pas goûté à mieux que ce qu'on a sous la main, on se trouve des raisons d'apprécier sa pitance, peut-être même de ne pas du tout en chercher d'autres. Sûrement un des secrets du contentement, sans pour autant envisager le bonheur, car ce genre de sentiment n'avait manifestement jamais mis les pieds au doge. Un drôle de pays de brutes et de taiseux. Et comment pourrait-il en être autrement dans cette région où le diable en personne ne prenait pas la peine de choisir les âmes et se servait sans se soucier de négocier avec la concurrence? La plupart des gens du coin se rendaient pourtant au temple, le dimanche, espérant certainement alléger un peu leur fardeau. Le seul trésor qu'ils côtoyaient chaque jour était en même temps l'expression de leur calvaire, cette nature majestueuse et sournoise, pareille à une femme fatale, impossible à oublier. Comme chaque jour, Gus s'était levé tôt. Jusque-là, il enfilait ses journées les unes à la suite des autres, comme des perles sur un collier. La précédente ressemblait à la suivante, et ce jour de janvier 2006, le 22 pour être précis, c'était une drôle de perle qu'il s'apprêtait à enfiler. Une qui ne ressemblait pas vraiment à toutes les autres. Quand Gus mit le nez à la fenêtre, il faisait encore nuit. La lune pendait au-dessus du toit de la grange. Il avait encore neigé pendant la nuit environ 10 centimètres, bien collant à ce qu'il pouvait en juger à travers les carreaux embués de la cuisine. Il se dit qu'il n'allait pas être aisé de transporter le fumier sur le tas et monter la côte jusqu'à la fosse en poussant la brouette remplie à ras-bord, en forçant sur ses avant-bras maigres et tendus comme des pattes d'insectes. Mis à part les désagréments qu'elle pouvait occasionner, il ne détestait pas la neige. Elle cachait la saleté et le désordre pendant un temps, et qu'il devait avouer que c'était reposant de faire l'économie momentanée du cimetière qui s'étendait autour des bâtiments, là où des cadavres de machines dépecées rappelaient sans cesse les époques révolues, comme des strates disparates dans la coupe d'une carrière abandonnée. Pour l'heure, les surfaces étaient immaculées, plane, creuse ou bosselée, corps albinos de la nature dont le soleil impitoyable aurait un jour raison. Il y avait deux façons de se rendre à l'étable, soit en empruntant le couloir qui communiquait directement avec la cuisine, soit en passant par l'extérieur. Ce matin-là, Gus eut besoin de tâter le temps. Il ne prit pas de petit déjeuner et sortit, après s'être vêtu chaudement. Mars l'accompagnait, un bon bâtard de chien, difficile en rien, qui ne se souciait visiblement pas du froid, se roulant dans la poudreuse comme un dément, en aboyant et en pissant sans prendre le temps de s'arrêter. Gus traversa la cour, les mains enfoncées dans ses poches de pantalon. Des gouttes de lumière parties en éclaireur luisaient sur la neige gelée, recouvrant le pan est du toit de la grange, ce que tout homme conscient de la marche de l'univers aurait pu qualifier de grande beauté. Gus, lui, anticipait les états de la matière pour ne pas être à la remorque de la déplorable linéarité de sa propre existence.
Come and listen to my story if you will, I'm gonna tell about a gang of fellers from down at Nashville. First I'll start with old Red Foley doing the Chattanooga shoe. We can't forget Hank Williams with them good old Lovesick blues. It's time for Roy Acuff to go to Memphis on his train with Minnie Pearl and Rod Brasfield and Lazy Jim Day. Turn on all your radios, I know that you will wait. Hear little Jimmy Dickens sing, take an old coal tater and wait. There'll be guitars and fiddles, Earl Scruggs and his banjo too. Bill Monroe singing out the Kentucky blues. Ernest Tubbs number two wrongs won't make a right at the Grand Ole Opry every Saturday night. Making his gold tooth and plug hat. Cowboy Copa singing tragic romance. Signed, sealed, and delivered with Sam and Kurt McGee. And the master ceremony was the Mr. George D. Hayes. There was Lonzo and Oscar a popping bubble gum. George Morgan singing candy kisses, yum yum. Got a hole in my bucket, bringing in that Georgia meal. We'll sing the sunny side of the mountain and dance to the chicken reel. There'll be guitars and fiddles and banjo picking too. Bill Monroe singing out the Kentucky blues. Ernest Tubbs number two wrongs won't make a right at the Grand Ole Opry every Saturday night. You can talk
talk about your singers in all kinds of ways, but none could sing the old songs like Bradley Kincaid, with his old hound dog guitar and the famous blue tail fly. String beans with Hank's, no, no fiddling chubby wives. There'll be guitars and fiddle, Earl Scruggs and his banjo too, Bill Monroe singing out the Kentucky blue.
Ernest Tubb's number, two wrongs won't make a right, at the Grand Ole Opry every Saturday night.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après cet intermède musical, nous reprenons le roman de Frank Buis, Grossir le ciel. Gus s'arrêta pour allumer une cigarette en protégeant la flamme de son briquet avec ses mains disposées en coupe, à la manière d'un dévot priant tout à la fois la cause et l'effet d'un simple miracle. Ensuite, il entra dans l'étable pour soigner ses bêtes. Elles n'étaient pas bien nombreuses, mais c'était quand même quelque chose, ces 17 mères à nourrir, rien que des aubraques, et ces 8 veaux à mener au pis matin et soir en faisant bien attention de les surveiller. Parce que cette engeance-là papillonnait pour un oui ou pour un non, cabriolant dès qu'on la libérait de ses chaînes, claquant du sabot sur la pierre froide dans l'obscurité, à peine réveillée par un falot posé sur une botte de paille et une ampoule indigente coincée entre 2 poutres emmaillotées de toiles d'araignée, pendant que les mères imploraient en meuglant qu'on les libère de ce lait qui les tuait. Et les veaux finissaient toujours par se diriger vers l'épi engorgé, arrimé aux doigts noueux de Gus par 2 mètres de cordes de chanvre, cavalcadant tels de petits diablotins avant d'aller fracasser le mufle sur l'outre veinée, puis gober une tétine turgescente avec toute l'ingratitude des fils. Ça aurait dû être une journée comme ça, qui débutait comme toutes les autres, et qui aurait dû se poursuivre pareillement. Pourtant, rien ne se passa de la sorte. Quand Gus eut rattaché le dernier veau rassasié, il essuya les tétines de sa vache la plus productive avec un vieux chiffon, tout en lui caressant l'échine et en lui parlant patois. Puis s'assit sur un tabouret à 3 pieds et tira un peu de lait dans un broc en balançant sa tête au même rythme que ses mains montaient et descendaient à la manière des pistons parfaitement réglés. Quand il eut terminé sa traite, il rentra à la maison, enfourna du petit fagot dans le fourneau de la cuisinière, du bois mort qu'il avait ramassé dans la forêt et fait sécher. Ensuite, il craqua une allumette sur une feuille d'un vieux journal disposé sous le bois et le tout s'enflamma instantanément. Gus présenta ses mains froides au-dessus pour les réchauffer. Une fois le feu démarré, il jeta 2 bûches dans le foyer et posa une casserole sur le tablier en fonte dans laquelle il versa le lait frais. Mars couinait en regardant faire son maître. Gus lui donna un peu de lait. Le chien se précipita sur sa gamelle pour laper le breuvage épais dont les éclats pointillèrent son museau de flocons liquides. Au moment où le lait commençait à frémir, Gus en remplit un grand bol, y fit tomber 3 sucres et tourna le breuvage avec une cuillère en étain jusqu'à ce qu'il soit fondu et même encore plus longtemps que nécessaire. Ensuite, il alluma la télévision bloquée sur la 2e chaîne, la seule qu'il recevait par mauvais temps, et se posa sur une chaise en paille pour boire son lait, ses mains étranglant la faïence bleue du bol. Gus ne prêta pas immédiatement attention à ce qui se disait à la télévision. Il tira son paquet de gitane d'une poche de sa veste, s'en alluma une avec son briquet, puis but une longue gorgée de lait sucré. Ce fut à cet instant qu'il comprit ce qui venait d'arriver. Il plaqua ses 2 mains sur la toile cirée de la table, les yeux rivés au petit écran bombé posé au-dessus du frigo.
l'abbé Pierre était mort. Gus n'aurait su dire pourquoi la nouvelle le remuait de la sorte. Il ne l'avait pourtant jamais connu, cet homme-là, catholique de surcroît, alors que Gus était protestant. Mais sans savoir pourquoi, c'était un peu comme si l'abbé faisait partie de sa famille. Et elle n'était pas bien grande, la famille de Gus. En fait, il n'en avait plus vraiment, à part Abel et Mars. Mais qui aurait pu raisonnablement affirmer qu'un voisin et un chien représentaient une vraie famille? Juste mieux que rien. Le père, c'était en 75 qu'il était mort, et la mère en 81 ou 82, ou peut-être en 85. Gus ne savait plus vraiment. Sûrement qu'il n'avait pas envie de se remémorer la drôle de façon dont ils avaient tiré leur révérence, chacun leur tour. Alors, l'abbé qui disparaissait, même s'il avait fait son temps, lui, 94 ans, c'était quelque chose. Il est vrai que quand on passe les 90, on devient important juste parce qu'on est très vieux. Un genre de performance. Pour avoir réfléchi à la question plus d'une fois, ça n'intéressait pas Gus de vieillir autant, à se demander ce qui pouvait bien rester lorsque les jambes ne vous tenaient plus, que les yeux ne voyaient plus clair, et quand on était pris par la rouille, sans espoir de changer les choses. Il y pensait souvent à la vieillesse, la vraie. Celle qui privait doucement des gestes qu'on faisait facilement, puis qu'on ne pouvait plus faire, tout ce qui se passait avant de rejoindre le cimetière. Une des rares choses qui faisait vraiment peur à Gus. Il ne sortit pas de la matinée, buvant café sur café, fumant un paquet entier de gitane, en écoutant ce qu'on racontait sur l'abbé. Certains disaient qu'il l'avait rencontré et même connu. Ils lui rendaient tous hommage à leur façon, mais la plupart, Gus, voyait bien que ce n'était pas vraiment sincère, tout bien habillés qu'ils étaient. Il n'avait pas souvent l'occasion de voir différentes sortes de gens et ça lui allait plutôt bien de ne pas se sentir dans l'obligation de les jauger. Ils montrèrent ensuite les images de l'hiver 1954. Gus n'était pas encore né à l'époque, on racontait que le froid avait été glacial. Et puis un matin, l'abbé avait lancé son appel désespéré pour que les pauvres, qui n'avaient pas de quoi se loger, aient un abri ou se réchauffer. Il y avait eu du monde pour entendre l'appel à la radio, même des gens dont on ne l'aurait pas cru, comme Charlot en personne. Charlot vieux, que Gus ne reconnut pas sur les images d'archives, sans moustache, sans costume, sans sa canne et avec des cheveux tout blancs. Charlot, qui avait donné plus d'argent qu'on n'en verrait jamais au Doge, même en vivant 100 ans. Des millions, qu'il disait à la télé. Il faut reconnaître que pour ces gens-là, les millions, c'est comme les portefaix l'été dans la rivière, il suffit de soulever les bonnes pierres pour en trouver. Question portefaix, Gus s'y connaissait. Pour les millions, il ne pouvait pas dire. Et après, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'un tas d'argent? Personne ne peut repeindre un ciel d'hiver, alors quoi? Au bout d'un moment, Gus sentit qu'il faisait de plus en plus froid dans la maison. Il se leva de sa chaise et s'approcha du fourneau. Le feu était mort. Gus tenta de le raviver en assommant les braises à l'aide d'un tisonnier, mais il n'y avait plus rien à faire. La seule solution était de retourner chercher du petit bois sous la pentille et de recommencer la grande affaire du feu, pendant que la réception télé donnait quelques signes de faiblesse, distribuant des mots comme sortis d'un emporte-pièce sonore. Dehors, la nature était toujours en sourdine, et le jour s'était levé. La neige tombait de nouveau, des flocons gros comme du duvet d'oie qui semblaient ne jamais toucher le sol tellement ils étaient légers et repartaient dans l'air pour un tour avant de se poser au ralenti.
Gus sortit sans prendre le temps de mettre une veste. Le vent passait entre les mailles et les trous de son pull que plus personne n'était en mesure de repriser. Il se dépêcha avant d'être totalement gelé. Mars l'avait suivi et s'amusait à attraper les flocons dans sa gueule comme s'il s'était agi de croquettes que Gus lui achetait parfois à la coopérative agricole du pont de Montvert, le genre d'extra qui devait donner l'idée des dimanches à l'animal. Quand Gus entra dans la maison, les bras chargés de bois sec, l'écran de la télé était aux abonnés absents. La neige devait peser sur l'antenne. Il aurait pu monter sur le toit en passant par le grenier pour la faire tomber du râteau, mais il n'en fit rien. Pensant que c'était quelque chose comme un signe et qu'il n'était pas si mal, que la matinée se termina là-dessus. L'enterrement de l'abbé était prévu 3 jours plus tard. Cette lecture est terminée pour ce soir. Nous reprendrons demain la suite du roman de Franck Bouys, « Grossir le ciel ». Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Nous nous retrouverons demain. Je vous souhaite une bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.